Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va passer une belle soirée, surtout un bon 60 minutes avec ma gang de camionneurs et camionneuses du Québec, la belle gang de Truck Stop Québec. Comment vas-tu, Benoît Terrien?
Ça va bien, Yannick Marceau, toi?
Ça va bien. Je me posais des questions par rapport au merveilleux monde du camionnage parce qu'à matin, j'ai dû mettre de l'essence dans mon véhicule et j'ai croisé un de vos camionneurs. Je ne sais pas si vous connaissez toute la gang, mais j'imagine que vous faites des babayes sur la route. Le gars s'est tapé, il ne s'est pas tapé, mais il a pris 3 Monsters avec 2 gros sous-marins du dépanneur. Puis je me suis dit, c'est sûr que si c'est ça sa diète là, quand t'es camionneur, il va péter du cœur dans les prochaines années. Comment vous faites pour bien manger quand vous êtes sur la route? T'sais, lui, je sais pas si c'est quelqu'un qui venait du Québec ou encore peut-être de l'Ouest canadien ou même des États-Unis. J'ai pas pensé à remarquer sa remorque, mais tabarouette, les gars, 3 Monsters puis 2 sous-marins et un jambon, là, à un moment donné, ça va-tu? Qu'est-ce qui se passe?
Mais qu'est-ce qu'il y a de pas santé là-dedans, Yannick Marceau?
Ben, je sais pas. Je suis pas un spécialiste.
Mais... c'est super santé. 2 sous-marins, c'est encore plus santé, voyons.
Ouais.
On fait des farces, là, mais c'est...
Les sous-marins, quand c'est fait dans un restaurant, là, je peux croire que ça a un peu plus de bon sens, mais quand c'est fait machinerie, dépanneur et tout ça, on dirait que je fais peut-être un peu moins confiance. Puis il y a 2 types de personnes qui prennent les Monsters. En fait, 3. Les premiers, c'est les gars de la construction qui travaillent extrêmement fort. Après ça, les camionneurs qui font de la route, qui veulent pas s'endormir, puis qui travaillent de longues heures, puis qui travaillent extrêmement fort. Puis les autres, comme moi, mettons, qui ont besoin d'un petit hop une fois de temps en temps. Mais quand je parle à des cardiologues, les boys, les cardiologues disent tout le temps, quand il y a des gens qui se présentent avec des palpitations cardiaques aux urgences, la première question, c'est « Avez-vous pris un Red Bull? Avez-vous pris un Monster? Avez-vous pris quelque chose qui fait en sorte que votre cœur peut avoir... certaines défaillances, puis trop souvent, la réponse est « oui, monsieur le docteur ».
L'erreur flagrante qu'on fait tous et toutes, puis ça, c'est pas réservé uniquement aux camionneurs et camionneuses, mais à peu près dans tous les corps de métier, c'est qu'aujourd'hui, la vie va vite. On a besoin d'un petit remontant. Qu'est-ce qu'on prend? On prend une boisson énergisante. Il y en a qui vont prendre peut-être des repas, pas des repas, mais des drinks un peu plus sucrés, plus naturels. Puis là, ben, il y a beaucoup de marketing qui tourne autour de toutes ces boissons-là. Parce que pourquoi? Ben, ça te tient éveillé, ça te donne un boost au niveau peut-être intellectuel. C'est de la caféine en même temps. Imagine que tu te lèves le matin et que tu vas prendre 2, 3 ou 4 cafés. Puis tu vas te rajouter un Monster dans l'avant-midi. Tu vas arriver dîner, un petit café tant qu'à y être. D'après-midi, tu vas reprendre un Monster. Tu sais, la patate, là, elle ne survivra pas ben 10 années à consommer comme ça. Puis les sous-marins, ben, tu sais, c'est sûr que de la viande froide, ça reste que c'est ultra salé. Rajoute ça sur ton système. Il n'y a pas de façon de faire plus rapide que de t'enligner peut-être vers une maladie chronique quelconque. Le problème, c'est que dans notre industrie à nous, je vais parler, puis c'est probablement pareil partout, ça va vite. On n'a pas toujours énormément de temps pour dire « je vais aller masser 2 heures, 3 heures au resto, puis je vais relaxer, puis je vais prendre le temps de prendre un bon repos. » Les 2 sous-marins sur le siège du passager, puis en roulant, puis on mange ça, puis la canne de boisson énergisante à côté, puis... là, on se sent allumé pour 2-3 heures. Le défaut, c'est qu'on crée une habitude dans notre système. La canne ne fait plus toujours son effet. La boisson énergisante, on dirait qu'on perd un petit peu d'effet ou le corps s'est habitué. Vient un temps où ça t'en prend quasiment 2 pour faire le même effet que la 1 d'avant. Pourquoi ils sont toujours en spécial aussi 2 pour 5 piastres ou 2 pour 6 piastres? Bien, le truc est là, c'est que, tu sais, les gens... en temps normal, devrait en consommer 1 par jour maximum, peut-être 1 par 2 jours si vous êtes encore plus capable, puis peut-être une fois de temps en temps, juste pour vous donner un petit boost, mais on ne devrait pas consommer ça dans le but de faire un drink. Vous êtes mieux tant qu'à ça de vous acheter des bouteilles d'eau, puis vous allez être plus en santé. côté nourriture, là, Yann. Là.
Ouais, mais est-ce que c'est dur pour vous autres d'essayer d'avoir une alimentation qui est adéquate? Parce que, tu sais, on va se le dire, vous passez de longues heures sur la route, mais au niveau physique, là, y en a qui sortent pas de leur camion pendant plusieurs heures. D'essayer de pas faire trop d'embonpoint, est-ce que c'est difficile?
Je pense que 90 % des camionneurs vivent cette question-là au quotidien. Pourquoi? Parce que, bon, faire de l'embonpoint, on est assis au moins entre 8 et 15 heures dans une journée, que ce soit au repos ou que ce soit en conduite. Et là, vous allez consommer tout ce qui est facile à consommer, dans le sens où on va aller, bon, dans un truck stop. Qu'est-ce qu'on vous offre dans un truck stop? S'il y a un restaurant, bon, on va vous offrir quelque chose d'un peu plus santé. Mais normalement, il y a un comptoir où il y a des ailes de poulet, il y a de la friture, il y a des pointes de pizza. Rarement, vous allez avoir un sandwich tomate, mettons, et du bon poulet dedans. Pas quelque chose de frit, là. Très rarement. Puis, on est toujours poussé par le temps. Nous autres, les camionneurs, là, on a un horaire à respecter. On a de la réglementation sur les heures de conduite. Et il faut toujours jouer dans ces horaires-là. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben c'est plus facile de se ramasser du poulet popcorn, mettons, avec des ailes de poulet, puis je sais pas, moi, tant qu'à y être, un pogo. Fait que, tu sais, c'est l'affaire la plus facile. Puis quand tu as fini ta journée, là, bon, mettons à 8-9 heures à soir, tu rentres au truck stop prendre une douche. Là, tu as le choix entre le petit plat avec des choux de Bruxelles dans ton micro-ondes que tu vas te faire cuire tantôt, là, avec une belle petite sauce blanche, un petit riz, toute santé,
ouais.
Ou tout de suite un paquet d'offres de fritures qui sentent déjà bonnes puis tu as faim parce que depuis midi que tu n'as pas mangé, ben, on devient brisé. Puis on est obligé de se ramasser de la bouffe. C'est plus facile, c'est plus rapide. J'ai faim, là. Cinq minutes de micro-ondes, ça va quasiment être trop. Je vais quasiment être couché. Tu sais, c'est difficile. Puis notre industrie, de plus en plus, s'oriente, en tout cas, tout ce qu'on appelle truck stop, s'oriente aux États-Unis pour de la malbouffe. Puis quand je dis malbouffe, c'est sûr que tu peux choisir une salade si tu vas aux Arches Dorées. Tu pourrais choisir la salade, c'est pas grave. Mais c'est toujours plus facile de choisir un trio avec la frite, le burger, la boisson gazeuse, que d'y aller avec un choix santé. Il y a la chaîne Subway où on peut manger pas mal mieux, mais est-ce que tu vas manger 5 jours par semaine du Subway? À un moment donné, tu vas te tanner. Peut-être la première semaine, tu vas être capable, mais à un moment donné, on finit par se tanner. Bien, qu'est-ce qu'on va faire après? Moi, j'appelle ça de la moulée. On va aller chercher de la moulée, puis on va s'en aller dans le truck en mangeant ça. Puis après ça, on part, puis on est parti pour un autre homme.
Mais est-ce que ça existe, Ben, des entreprises qui se spécialisent dans la nourriture pour les camionneurs ou les gens qui sont constamment sur la route puis qui ne veulent pas nécessairement tout le temps manger dans les dépanneurs comme mon gars de ce matin ou encore les restaurants? Ça existe-tu, ces entreprises-là qui se spécialisent là-dedans puis qui vous donnent l'équipement nécessaire pour conserver votre nourriture pendant une semaine ou deux semaines?
La majorité des camions équipés d'une couchette en arrière, les entreprises font en sorte qu'il y a un frigo d'inclus dans ce camion-là avec un micro-ondes. Fait que le frigo, bien souvent, a la partie du bas qui est réfrigérateur, la partie du haut qui est congélateur, mais c'est une affaire comme quoi, on appelle ça 5-6 pieds cubes, là, les mini-frigos là, que vous pouvez vous voir un peu partout, là, peut-être 150-200 piastres, et un micro-ondes. Mais je te le dis, là, Yann, là, t'es camionneur, tu roules, tu fais des longues heures. Quand tu arrives à la fin de la journée, tu as le choix du petit chou de Bruxelles, la belle petite sauce, le beau petit plat préparé, puis que tu es devant le comptoir, tu t'es acheté une bouteille d'eau, un jus, un lait, whatever, et que ça sent bon, c'est dur de pas plier à ça. C'est correct, tu le feras pas 5 soirs par semaine, mais ça devient difficile. C'est quasiment comme un appât, là, tu sais. Okay.
Puis il y a un camionneur qui m'avait dit, parce que j'avais déjà parlé de ça sur une tribune libre quand j'animais dans une autre station de radio, puis il me disait qu'il y avait des exercices qui avaient été faits pour les camionneurs pour qu'ils puissent faire de l'exercice à même leur camion pour être sûr et certain de dépenser un peu plus de calories. Puis il y avait le camionneur me disait qu'il prenait sa petite marche où il allait faire son petit jogging, mais il fallait pas trop qu'il ait chaud parce que des fois, à certains endroits, je pense que c'était pendant la pandémie, là, Ils ne pouvaient pas se laver partout. Fait que ils s'organisaient pour faire ces activités quand même, dépenser un bon nombre de calories, du moins ce qu'ils devaient dépenser par jour pour ce qu'ils avaient mangé. Puis ils réussissaient quand même à s'en sortir. Mais l'obésité, ça peut être extrêmement dramatique là, dans certains cas, là, quand tu n'es pas capable de gérer tout ça. Mais si j'étais une entreprise qui se cherche une opportunité de marché, camionnage, ça vaut vraiment la peine. Puis je parle pas de petits brocolis ou ces affaires-là, mais du comfort food, là. Tu sais, des pâtés chinois, toutes ces affaires-là, tu sais, que tu peux mettre dans...
Les supermarchés en offre. Tu sais, à peu près tous les supermarchés en offre, mais est-ce qu'il y a un choix adéquat versus... Puis quand tu arrives à la douane, mettons, là, puis que tu as un beau pâté chinois, bien fait, là, peut-être par ta conjointe.
Ouais.
Le douanier te dit, est-ce que vous avez de la viande? Oui, j'ai un pâté chinois. Ah, shepherd pie. Sac ça d'invidange. Des fois, il va te laisser passer. Mais généralement, puis surtout s'il est cuit, mais normalement, puis durant la pandémie, là, il y a certains camionneurs qui ont jeté énormément de bouffe. Puis il y a un temps aussi que les douaniers... Écoute, t'achetais un orange, je vais faire des villes qui sont faciles à rejoindre. Plattsburgh, t'achètes la poche d'orange. Il y a 10 oranges là-dedans. Peu importe la marque, t'achètes ça au supermarché à Plattsburgh. T'emmènes ça ici, t'en manges une ou deux, t'en laisses dans le truck, tu retraverses l'autre bord. Ils n'en veulent pas de la poche d'orange. Parce qu'elle a traversé au Canada, tu pourrais importer des maladies, des moustiques, des bébites là-dedans. Oui, mais je l'ai pris de l'autre bord, je l'ai emmené et je l'ai retraverse.
Comme si les maringouins, ils ne passaient pas les douanes.
Ben non, mais tu sais, on dirait que c'est... Puis des fois, tu sais, il y a souvent des bizarres histoires qui arrivent avec les douanes, mais surtout des affaires de même sur le fait que tu as emmené de la bouffe, tu la retraverses, ça ne marche plus. Puis, mettons que quand tu traverses aux États, ils sont peut-être un peu plus stiffs au niveau des douanes américaines pour fruits, légumes, viande. Les produits laitiers, on dirait qu'ils passent. Et quand tu t'en reviens, pour l'avoir expérimenté une tonne de fois, puis je dis pas d'aller le faire, là. Ça se peut qu'ils vous pognent, puis ça se peut qu'ils vous pincent, mais d'avoir ramené de la viande, d'avoir ramené du lait, d'avoir ramené toutes sortes d'affaires, puis c'était pas important pour eux.
Okay.
Fait que, on dirait que l'entrée... Au Canada, on dirait que les douaniers font peut-être un job moins, dans le fond, de chercher des bébites là où il n'y en a pas. T'achètes, là, ben, durant le temps des fêtes, il y a souvent des spéciaux sur la viande et tout ça. La viande crue, moins, mais de la viande préparée, un peu comme un pâté chinois. Je prendrais le même pâté chinois, je le fais à Plattsburgh, je le ramène. D'après moi, 9 fois sur 10, il va passer.
OK. Puis mais... qu'est-ce que tu as en cours, advenant le cas où tu dis au douanier, non, j'ai pas de pâté chinois, puis lui, il décide de rentrer puis regarder ce que tu as dans ton frigidaire. C'est quoi les risques que vous pouvez avoir quand vous faites ça? Ils peuvent-tu vous interdire de rentrer aux États-Unis pour les prochaines semaines, prochains mois, même si c'est votre travail?
C'est une bonne question, Yann. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui décident un jour ou l'autre de cacher un objet, un produit au douanier de peur de ne pas être capable de l'emmener. Ça, c'est assez simple. Tout le monde a peut-être déjà caché une bouteille de vin, un morceau de linge ou tout ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que, bon, dans mon cas, j'ai une carte Nexus. La carte Nexus est l'équivalent dans l'industrie du camionnage d'une carte Fast. C'est qu'on a fait une entrevue avec les douaniers américains, on est retraversé du côté canadien, on a obtenu la carte et on prend une photo de l'iris. Et ça fait synonyme de « je suis bien Benoît Thérien » avec l'iris. Et on me pose pas mal moins de questions quand j'arrive à la douane.
Ouais, j'ai lu que ça allait être pas mal comme ça partout aux États-Unis quand tu vas vouloir rentrer. Tu sais, oui, la carte Nexus, ça va te permettre de passer peut-être un peu plus vite, Ben. Mais tu sais, parce que ça m'a surpris, moi, qu'ils prennent une photo de moi aux douanes à Montréal. Puis que quand je sors du bateau et que faut que je repasse les douanes américaines, qu'en une milliseconde, avec la photo, ils soient capables de dire « OK, ben t'es bel et bien le bon gars, puis c'est code vert », ça m'a surpris la rapidité. Fait que je me suis intéressé à ça, je commençais à faire certaines lectures. Puis dans les prochaines... Dans les prochaines années, ça va être ça. T'sais. Une fois que tu vas avoir mis ton passeport, une fois aux douanes américaines, ils vont prendre une photo, enregistrer ton passeport, puis ils savent exactement quand est-ce que ton passeport va être reçu. Fait que oui. Toi, tu vas pouvoir repasser là, puis ils seront pas tannants avec ton passeport. Juste avec une photo de ton visage, ils vont dire tu peux passer ou tu peux pas passer.
Et cette technologie-là permet d'assez rapidement détecter qui t'es aussi, là, tu sais, parce qu'on veut savoir qui entre en sol américain ou qui entre en sol canadien. Et est-ce qu'éventuellement, on va s'échanger ces informations-là? Le programme Nexus, le programme FAST, les Canadiens et les Américains s'échangent l'information, là. Ça veut dire que, et tu sais, à ta question, est-ce que je peux traverser ci, je peux traverser ça, je le cache, qu'est-ce que je peux obtenir comme peut-être tape dans le dos si, ou tape ses doigts si jamais j'ai traversé quelque chose? Bien, dans mon cas, à la première infraction, ma carte est retirée.
OK. Oh
donc, mettons que j'ai, je ne sais pas, là, je te donne un exemple. On part ce soir tous les deux, on arrive à 11h minuit dans le coin de Boston, on a du fun et puis on fait un aller-retour, on ramène chacun deux bouteilles de vin, sachant très bien qu'on n'a pas le droit. Puis arrive à la douane, on ne le déclare pas, fouille le char, trouve quatre bouteilles de vin. C'est sûr que dans mon cas, on me retire la carte Nexus, on la désactive. Je compare ça, puis les gens devraient comprendre ce principe-là. Quand vous passez la douane, c'est un peu comme un dossier de crédit. Ça veut dire que si Yannick Marceau, ça fait trois fois qu'il passe, ça fait trois fois que je l'intercepte avec une bouteille de trop qui ne me l'a pas déclaré, c'est sûr que tu vas passer dans, plus souvent aux inspections que n'importe qui d'autre. Dans mon cas, si à chaque fois j'ai déclaré, j'ai payé de la taxe. Le pire qui va vous arriver, là, c'est que vous allez payer une taxe sur les produits que vous avez achetés en trop. Puis, je vous le dis, là, ils ne sont pas tellement, tellement à cheval sur le montant. On dirait qu'on évalue, ah, bah, charger 15$ de taxe là-dessus, c'est une affaire, tu sais, qui n'a pas coûté ça, là, tu sais. Fait que c'est peut-être une affaire de 150$. On va charger 15-20$ de taxe. Je ne sais pas c'est quoi le barème, mais visiblement, c'est pas très élevé. Déclarez donc tout ce que vous voulez traverser. Vous le savez que vous arrivez des pays chauds et vous aviez droit à deux bouteilles de vin, vous n'en avez quatre, déclarez-le. Tout simplement, vous le dites au douanier, j'ai quatre bouteilles de vin, je sais que j'en ai deux de trop, mais c'était du bon vin, puis je le voulais. Et lui, il aime autant entendre ça que de trouver plus tard quatre bouteilles de vin que tu n'as jamais déclarées. Là, ça y met un doute, y a-tu d'autres choses? Le temps que vous allez perdre à l'inspection, là, bien, ce temps-là, là, il vaut quelque chose, fait que déclarez-le. Puis si on vous charge 15-20$ de taxes, deux bouteilles de vin, vous l'aurez essayé, puis vous l'essayerez plusieurs fois, puis peut-être sur 10 fois, il y aura peut-être 8 fois où vous allez payer la taxe, peut-être 10 fois, mais généralement, les douaniers aiment mieux entendre une affaire de vrai que de leur cacher quelque chose. Puis cacher quelque chose d'un véhicule, bien, votre véhicule va être tagué nécessairement, puis on va faire plus d'inspections routinières envers votre véhicule. Vous vous exposez à quoi si vous ne déclarez pas des légumes? Il y a certaines douanes qui vont vous facturer un montant parce que vous avez mal déclaré vos légumes. De la viande, bien, la meilleure chose, là, c'est que si vous allez faire des emplettes aux États-Unis, vous les ramenez à l'intérieur du temps que vous, qui est alloué pour avoir une déduction, déclarez-le, montrez vos factures. La meilleure affaire, vous mettez toutes vos factures dans la même enveloppe, vous donnez ça au douanier,
ça va
puis
vite.
Vous répondez strictement à ces questions. Allez pas y dire, vous avez acheté 4 drones, puis 8 paires de lunettes soleil, puis vous donnez facture, vous y dites, j'ai acheté ça, ça se peut que je paye de la taxe, vous y dites. Puis s'il pense, je pense, que vous sacrez de payer la taxe, d'après moi, vous allez... En tout cas, évitez un paquet de troubles. Payez ce que vous avez, ce qui est dû. Puis, normalement, on a quand même un lousse là-dessus. Une bouteille, deux bouteilles, ils sont habitués. Les déductions de 200 quelques dollars ou de 800 quelques dollars, même si vous avez dépensé ça, parce que normalement, ils disent que ça devrait être en canadien. Si vous l'avez dépensé, vous le dépassez de 100 US, c'est pas grave. Dites-le. C'est la meilleure chose que vous allez faire. Puis vous allez vous économiser sûrement un petit interrogatoire de moins, puis un paquet de troubles de moins. Puis si vous allez payer la taxe, Bien, pour eux autres, c'est comme, bon, il a chargé la taxe, c'est un paquet de troubles, c'est du trouble pour eux autres, c'est du trouble pour toi, mais au moins, tu as tes produits avec
toi. Ben oui, c'est ça. Mais je pense que la franchise, c'est le meilleur moyen de s'en sortir la plupart du temps. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais vraiment eu de problème avec les douaniers canadiens parce que je fume pas puis je bois pas. Fait que, ouais. Tu sais, les fois où je pense que j'ai jamais ramené d'alcool. Tu sais, je suis un buveur occasionnel, mais j'ai jamais ramené d'alcool des États-Unis. Fait que quand ils me disent, avez-vous des cigarettes, avez-vous de l'alcool, je dis tout le temps non. Moi, je me suis fait fouiller une fois, c'était le moment où il fallait absolument avoir son passeport pour passer les douanes.
Oui.
Puis je l'avais oublié, j'ai passé, normalement je passe tout le temps aux douanes en Beauce, puis là j'ai passé aux douanes en Ontario.
Ouf.
Puis là je commence à expliquer que j'ai oublié mon passeport, que je me sens vraiment mal. Puis là le douanier américain dit, mais tu peux-tu aller le chercher? Je dis, là j'étais quasiment 600-700 km de ma résidence, là je vais juste oublier le voyage que je voulais faire pendant 2 semaines aux États-Unis, puis je vais retourner chez nous. Puis ils m'ont fait remplir un formulaire. Ils ont fouillé ma moto au grand complet.
Ouais.
Mais ils ont tout le temps été respectueux. Puis après ça, ils m'ont dit bon voyage, puis je suis parti pendant 14 jours.
Est-ce que tu avais des frais pour ce document-là?
Je me souviens pas, mais j'ai rempli un document, puis il y avait une attestation comme quoi j'étais bel et bien la personne que je mentionnais. Ils n'ont pas pris de photos à ce moment-là, c'était la belle époque. Là. Ils n'ont pas pris de photos, ils n'ont pas pris mes empreintes digitales. Puis c'est quand je suis revenu au Canada que là, ça a été encore plus complexe, parce que là, j'ai passé par la Beauce, parce que je voulais que ce soit quelqu'un qui s'exprime très bien en français, puis qu'il soit capable de comprendre que je reste à genre 50 km de là. Fait que quand je suis passé aux douanes canadiennes, ils m'ont demandé mon permis canadien. Je dis, bon, pas mon permis canadien, ils m'ont demandé mon passeport canadien. J'ai dit, je ne l'ai pas. Ben, dis, tu comprends que tu ne peux pas passer? Je dis, ben, j'ai mon permis de conduire du Québec.
Oui.
Puis après, je te dirais 2-3 minutes, là, il a dit, OK, c'est beau, tu peux passer. Mais j'avais prévu à la shot, là, je passais pendant la nuit. Tu sais, il sort même pas.
Sans masse.
Comment?
Ouais, du lousse en masse, puis être le plus reconnu criminellement possible.
Ouais, non, mais tu sais, je passais pendant la nuit. Là, normalement, vers 3-4 heures du matin, ils sont écœurés de travailler. Fait qu'ils laissent passer à tout le monde. Puis en disant que j'avais oublié mon passeport, que je vais remplir un papier pour rentrer aux États-Unis, ça faisait 14 jours que j'étais passé. Puis j'avais respecté mon entente avec mon permis de conduire valide au Québec. Ils m'ont laissé passer. Mais c'est la seule fois où j'ai eu du trouble, peut-être, avec les douaniers américains. Mais j'ai été honnête du début. Là, j'étais à 700 km à peu près de ma résidence, puis j'essayais de passer aux États-Unis, puis j'avais pas mon passeport. Ils m'ont laissé passer pareil. Ça veut dire que quand t'es honnête, des fois, ils peuvent te laisser passer, même si techniquement, ils n'ont pas le droit. Là.
Puis dans le système, là, tu sais, faut pas se faire d'idées, là, mais dans le système, là, on voit tout sur Yannick Marceau quand on est aux douanes. Là. Le douanier a ton information, du moins ce qu'eux autres ont récolté. Ils savent un peu, puis souvent, il y a des gens qui vont passer, bon, mettons qu'ils disent, ce soir, j'ai passé à 19h à la douane de Jackman au Maine. Et je reviens demain après-midi, puis le douanier vous dit, quand est-ce que vous êtes entré? Quand est-ce que vous êtes passé à la douane? Oh, je suis passé avant-hier. Essayez pas de passer une fausse date, une fausse heure ou whatever. Eux autres le savent. Dans le cas d'une carte Nexus, une carte face, ils le savent encore plus, mais dans le système, le véhicule, là, il est tagué d'être entré à telle heure, puis il est ressorti à telle heure. Fait que, puis, tu sais... Est-ce que les douaniers se parlent? Moi, je croirais que oui, mais je ne veux même pas prendre de chance.
Ils sont sur le même système. T'sais. Ils ont accès à la base de données de la GRC. Les douaniers américains, là, ils ont accès à la base de données de la GRC. Fait que si vous avez un dossier criminel, ils vont le savoir très rapidement. Donc, quand ils vont vous poser la question, c'est important de dire la vérité. Ils sont capables de faire la part des choses. T'sais, si vous avez commis un acte comme un vol quand vous aviez 18 ans, puis vous avez 55 ans, eux, ils se disent, OK, à 18 ans, il a fait une erreur, mais il a pas fait d'erreur jusqu'à ses 55 ans. Je pense que je peux le laisser passer. T'sais, moi, il y a eu énormément de témoignages de ce style-là, mais il y a des sanctions, par exemple, agression sexuelle et tout ça. Vous passerez jamais aux États-Unis si vous avez ce type. Puis, savez-vous quoi, je comprends les douaniers, si vous avez ce type d'accusation-là, si vous avez été déclaré coupable d'agression sexuelle, restez donc chez vous, ça va bien aller.
Les viols et tout ce qui est acte vraiment criminel, un vol de banque,
Ce que j'ai compris, c'est acte sur la personne, puis vol. Mais vol, sont capables de faire la différence avec les années. Je répète un peu, si vous aviez 18 ans, puis là maintenant vous avez 55, ils vont vous laisser passer pareil parce qu'ils ont la date de l'infraction.
Il y a la question, il y en a beaucoup là, qui vont aller faire une demande de pardon pour traverser justement avoir le privilège d'aller aux États-Unis. À la question du douanier, est-ce que tu as déjà été, est-ce que tu as déjà fait une demande de pardon, puis est-ce que tu as été libéré d'une demande de pardon? C'est bien de valeur, il faut répondre la vérité. Il y a même des endroits qui vont dire non, 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 dites qu'il n'y en a pas, tout ça. Est-ce qu'on télécharge des bases de données puis qu'à un moment donné, on laisse inscrit au dossier?
L'information que tu donnes là m'a été donnée par un avocat. Si, parce qu'on l'a reçu sur les zones de boulevard, si tu as un dossier criminel en raison de l'alcool au volant, OK?
Oui.
Techniquement, tu peux passer aux États-Unis avec un dossier criminel en raison de l'alcool au volant, mais tu ne dois pas mentir au douanier s'il te le demande.
Ouais.
Si tu mens, il peut ne pas te laisser passer. Ou si tu dis la vérité, il peut ne pas te laisser passer. Mais normalement, dossier alcool au volant, tu vas pouvoir passer aux États-Unis. Mais si tu passes une première fois, mettons, tu t'en vas au Larchard, puis tu as un dossier de vol, OK? Puis là, toi, tu n'avais jamais passé aux États-Unis avant ce fameux dossier-là. Bien, tout de suite, tu vas être fiché automatiquement comme quoi tu as un dossier criminel puis tu avais réalisé un vol, exemple, en 2003. Mm-hmm. Mais là, toi, au Canada, tu vas faire ta demande de pardon. Ta demande de pardon va être acceptée. Mais quand tu vas repasser aux États-Unis, la banque de données, elle, ne disparaîtra jamais et ça va toujours être fiché comme quoi tu as fait un vol au début des années 2000. C'est pas super complexe, mais c'est quand même bien fait au niveau de la protection du territoire, là. C'est que si tu veux pas que les douaniers soient au courant de rien, fais ta demande de pardon avant de passer aux États-Unis, attends que ce soit accepté. Sois sûr et certain que ça a été effacé de tout le système. Puis les douaniers américains ne pourront pas y avoir accès à ce moment-là. Donc, tu vas pouvoir passer aux États-Unis sans aucun problème.
Mais ne jamais prendre de chance si vous avez déjà été en territoire américain. C'est correct, il ne vous a peut-être pas posé la question, mais est-ce que le système aurait reconnu une certaine forme d'offense que vous avez fait? T'sais, comme tu disais, là, quand vous avez dépassé les limites et vous étiez jeune, un douanier est capable de faire la part des choses. Mais il y a une affaire aussi, Yann, pour les gens qui vont aux États-Unis et qui disent tout le temps « j'ai pogné un maudit ticket, j'ai pogné une infraction ». Puis l'État de New York, la 87, on dirait qu'ils sont assez rapides pour déceler que tu as une plaque du Québec. En tout cas, il y en a un puis un autre. Puis souvent, on voit des flashs de police sur « oh, un Québécois sur le bord ». Ben, vous devriez techniquement, puis je ne suis pas un avocat, là, mais vous devriez systématiquement, toutes les fois, contester votre infraction. Dans l'État de New York, là, il faudrait chercher ça, mais il y a un site où vous pouvez entrer votre permis de conduire. Et quand vous entrez votre permis de conduire, ça vous sort comme un genre de rapport que Benoît, c'est un bon petit gars, il n'a jamais été arrêté dans l'État de New York. Et ça fait baisser l'infraction. Et une semaine avant l'infraction, parlez avec quelqu'un représentant là-bas, puis demandez est-ce qu'il y aurait moyen qu'on s'entende sur quelque chose. Parce que, bon, j'ai pas le goût d'avoir une infraction de 20 000 à l'heure de plus que la vitesse ou 10 000 à l'heure de plus que la vitesse. Et généralement, je sais pas pourquoi, à peu près 8 fois sur 10, vous allez être capable de vous entendre sur quelque chose. Mais il faut parler bien anglais, il faut exprimer clairement votre demande, puis vous allez être en mesure de pouvoir obtenir un rabais. Écoute, c'est pas tellement dispendieux, là. J'ai déjà pogné ça un 20 000 à l'heure de plus. C'était comme, ça reste que c'est de l'argent pareil. C'est toujours bien 180 ou 200 piastres que ça avait coûté. Puis aussi, je vois surtout là, sur certains sites, là, la désinformation sur le fait que payez pas vos... parce qu'il n'y a plus vraiment d'arrêt sur les Easy Pass et les tolls un peu partout aux États-Unis. On a mis des lecteurs de plaques. Paye-les pas, c'est pas grave, parce qu'on dirait qu'ils ont de la misère à obtenir les informations des automobilistes du Québec. Puis là, je vois plein de monde écrire, hey, paye-les pas, ils savent pas. Puis c'est parce que quand elle va rentrer, peut-être dans un an, cette facture-là, elle va probablement coûter tellement cher que le taux à 2-3 piastres que vous étiez censé payer va peut-être vous en coûter 40, 50, 60 piastres, les frais 56 000 à faire. Allez partout aux États-Unis dans les service center, achetez-vous le tag EasyPass ou n'importe quel autre, il marche partout. Il vous coûte quelque part, ça doit changer, là, mais avant, il coûtait comme 26 $ plus 4 piastres de frais de transpondeur et tu avais 26 $ de prépayer dessus pour les prochains payages que tu avais. Colle ça dans ton pare-brise, c'est réglé, puis ça va toujours débiter, puis vous laissez une carte de crédit en garantie, un peu comme toutes les autres places à Montréal ou peu importe sur la 30, qui vont débiter les paiements directement sur votre carte. Vous n'avez plus besoin de commencer à paniquer ou penser ou whatever, toutes sortes d'astuces. Ne croyez pas les gens qui vous disent de ne pas payer ça. Un jour ou l'autre, on mettra votre plaque dans le système, vous arriverez à la douane, un corps policier vous arrêtera et il faudra payer sur le champ.
OK. Hey, on a plein de sujets à jaser par rapport au merveilleux monde du camionnage. Tu as sur ton site truckstopquebec.com un article de Sophie qui travaille chez vous qui parle d'une tendance d'emploi à la baisse dans le secteur du camionnage. On se fie beaucoup aux États-Unis pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie. Là. On se fie beaucoup au merveilleux monde du camionnage. Est-ce que... Ouais. Qu'est-ce qui se passe actuellement? As-tu l'impression que l'économie commence à baisser un peu aux États-Unis en raison du fait qu'il y a une baisse pour ce qui est la tendance à l'emploi?
33 000 postes d'enlevés dernièrement aux États-Unis. C'est 33 000 chauffeurs disponibles.
C'est 33 000 camions, là.
Oui. Ouais. Les entreprises du Québec ont peine et misère actuellement à emmener du matériel aux États-Unis, de la matière première. Souvent, on est fournisseur de matière première. On emmène ça aux États-Unis. C'est difficile. Aux États-Unis, c'est encore pire. Parce qu'on dirait qu'on est d'un tourbillon économique qui ne reprend pas nécessairement beaucoup de vigueur. Quand on regarde, par exemple, tout ce qui sort des États-Unis, là, on a du travail pour nous autres. Là, on est capable de ramener du matériel, mais d'emmener du matériel aux États. Ce qui fait que quand on regarde l'économie américaine, souvent, on en est dépendant ici, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Quand la santé économique va bien aux États, normalement, ça va encore plus bien ici. Mais bizarrement, je peux te dire une chose, c'est que, bon, quand Sophie avait écrit l'article,
ouais.
Moi, je voyais aller, puis je jase avec plein de gestionnaires de compagnies qui me disaient, ça va être dur. 2023, la fin de 2023, de septembre à décembre, a été excessivement dur pour les entreprises de camionnage. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle le cash flow dans les entreprises a disparu. On a été joué là-dedans pour soit payer des équipements, soit payer ne serait-ce que le salaire des chauffeurs. Et actuellement, c'est pareil aux États-Unis. Il y a des compagnies qui vont avoir de la misère à survivre, des très, très grosses compagnies qui sont probablement, vous le verrez bien là, à un moment donné, sur le bord de fermer leurs portes, faute de liquidité. Parce que si j'ai 200 clients et que les 200 clients ne me payent pas dans les 30 jours, moi, je sors de l'argent que j'avais normalement, le vieux gagné qu'on appelle, et là, il faut que je fasse rouler mon entreprise, les camions, le fuel, les assurances, tous les paiements qui sont issus de l'entreprise de transport. Mais là, les 200 ne me payent pas. Ils sont rendus à 40 jours, 50 jours, 60 jours. Fait que les entreprises absorbent, puis ils ont de peine et de misère à avoir un peu de rentrée d'argent. Ils en sortent plus qu'ils en rentrent en bon français. Fait qu'aux États-Unis, ça va être... Puis là, on disait que, on repartirait au début de l'année 2024. Là, l'économie repartirait. Pour avoir parlé à un économiste, lui, il n'est pas tellement... enclin à dire qu'avant minimum juillet 2024, il y aura une reprise économique au niveau canadien. Peut-être un petit peu en même temps au niveau américain, mais il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas dire en récession, on est en ralentissement économique et tant que tout ce qui est taux d'intérêt va être élevé, ça tourne moins. Okay. Puis, va dans un restaurant, là. Tantôt, en sortant, là, pas va au restaurant. Tu vas voir qu'il n'y a plus grand monde dans les restaurants. En tout cas, il y en a moins. Puis, remarque une chose, là, puis c'est Monica qui me faisait voir ça. Tout ce qui est restaurant pas cher, la poutine, les hot dogs, puis tout ça, là, c'est plein. Les restaurants un petit peu plus, à 50, 60, 70 $ l'assiette avec un petit drink, ça baisse. Puis les repas à 100, 150 $ il y a encore moins de monde dans les restaurants. Fait que les gens gardent leur argent pour eux autres. Puis, comme quelqu'un m'a dit, il dit, le défi de 2024 sera de payer ton loyer ou ta maison ou ton prêt, puis de travailler. C'est les deux seules options que tu as en 2024.
Mais mettons que tu as 20 ans, Ben, puis que tu entends Benoît Therrien de Truck Stop Québec dire « Bon, ça va pas super bien aux États-Unis, des coupures de poste et tout ça. » Tu sais, est-ce que tu t'en vas quand même dans le merveilleux monde du camionnage? Avec tout ce que tu entends, oui.
C'est un cycle. Là, il faudra aller dans le bas de la courbe, mais avoir monté cette courbe-là. Là.
Ouais.
C'est pareil comme des ceux qui jouent à la bourse. Il y a des hauts, il y a des bas. Et présentement, on s'en va vers le bas. Et quand on aura une reprise, ça sera même le temps pour ceux et celles qui voudraient aujourd'hui s'acheter un camion. Dans le sens où je m'achète un camion, je me pars en business, je deviens broker. Bien, ça sera peut-être une option à envisager si vous êtes le moindrement habile avec les chiffres et la comptabilité et tout ça, et la négociation pour avoir des taux très élevés. Mais quand il y a une reprise, c'est le bon moment d'investir et de se lancer en business. Puis moi, je pense que probablement là, à partir de juin, juillet, à août, là, on va commencer à reprendre un peu le beat qu'on a perdu dans les derniers 6 mois, mettons, et il y aura certainement une reprise. Nous autres, tu sais, on a des cycles dans l'industrie qui est un peu avant Noël. On dirait que là, tu sais, il faut remplir les entrepôts, tout ça. C'est moins vrai peut-être dans ces années-ci, là, parce que les gens consomment à l'année, mais tout ce qui s'appelle là, les grandes corporations comme Amazon et tout ça, qui font beaucoup de ventes en ligne, bien, il faut toujours bien les approvisionner. Eux autres, ils marchent full pin. Fait que ceux qui produisent pour ces entreprises-là, ben eux autres, ils ont quand même un bout de vent dans les voiles. Mais si tu arrives puis tu dis, bon, ben moi, je fournis je veux pas minimiser ça, là, mais des produits comme, je sais pas, moi, dans des plus petits commerces, mais il faut que tu travailles plus fort pour emmener du stock. Fait que c'est moins payant pour notre industrie dans ce temps-là.
Puis le camionneur, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il va-tu avoir les mêmes tâches avec les camions qui s'améliorent, avec la conduite qui devient pratiquement automatique? Il va-tu toujours y avoir un gars dans le camion où, à un moment donné, il va y avoir des camions sur nos routes qui vont se promener puis il n'y aura personne à l'intérieur? T'sais, je sais que ce serait chose facile sur Pacific Highway, exemple, là, parce que c'est assez droite. Je pense pas qu'à Québec, ça puisse arriver un jour avec toutes les routes tout croche qu'on a puis les détours des fois qu'on a à faire pour des réparations qu'on fait à chaque année en disant « Ouais, on répare ça pour 20 ans. » Mais sur des gros tronçons au Canada puis aux États-Unis, va-t-il y avoir des camions où il n'y aura personne à l'intérieur dans un avenir rapproché, selon ce que tu sais, chez Truck Stop Québec?
Je pense pas. Mais il y a des tests qui ont été faits sur le sud des États-Unis. Il n'y a pas de calcium. Il fait beau, il fait chaud. L'asphalte est sèche la majorité du temps. Pas personne dans le camion. Puis, il y a des systèmes de caméras, puis tout ça, qui détectent les lignes et qui détectent la circulation et ce qu'on appelle les camions autonomes. Puis moi, je pense que la journée où ce que, tu sais, juste le fait d'emmener des transmissions automatiques, ça crée la grogne dans notre industrie parce que pour un camionneur, c'est le loisir de conduire un camion avec une 18 vitesse, avec une 15, une 13 vitesse, puis une 10 vitesse. Ça, c'est un loisir, c'est le fun de faire ça. Il y en a qui veulent plus de ça, mais c'est l'évolution qui fait ça. Fait qu'il y a eu de la grogne là. Là, à un moment donné, il y aura de l'automatisation des camions. Depuis quelques années maintenant, on a des détecteurs de lignes, comme dans les véhicules. Et quand le camion est trop proche d'une ligne, ben dans l'espèce de speaker côté passager, il y a un effet sonore qui est émis là pour te dire, bon, ben sur ton côté droit, tu es trop proche de la ligne, décolle. Et il y a une alarme qui est...
Mais ces capteurs-là, l'hiver, dans les tempêtes de neige, fonctionnent-tu ou sont désactivés?
Bon à rien.
C'est bon à rien. Parce que, tu sais, souvent, l'industrie de l'industrie aérospatiale sont en avance beaucoup, là, puis on regarde un peu ce qui se passe. Puis encore à ce jour, tu sais, il y a des pilotes dans l'avion. J'ai atterri à Porto Rico, puis je sentais, pour être pilote moi-même, je sais ce que c'est qu'un atterrissage là, puis qui est convenable. T'sais, je sentais que le jeune pilote qui était à l'intérieur, c'était probablement le copilote qui était en fonction à ce moment-là. Mais juste l'approche, on descendait beaucoup trop rapidement, ce qui faisait en sorte qu'il y avait des gens dans l'avion qui avaient des maux d'oreille constamment. Puis quand on a atterri, on a eu de l'air d'une gang de sauterelles sur la piste. Fait que là, je me dis, ça n'arrivera pas. T'sais, le jour, ça va être des ordinateurs puis l'intelligence artificielle qui va prendre tout en contrôle, l'avion. ce type de choses-là va être pris en considération. T'sais, la descente doit être douce. Faut pas trop que ça brasse. Puis l'atterrissage, il faut que ce soit doux aussi. Là, l'homme calcule beaucoup moins vite qu'un ordinateur. Puis on est encore avec des gars, des pilotes, puis des filles qui font atterrir les avions par eux-mêmes. Alors que techniquement, on est capable de faire atterrir l'avion sans que personne touche à la manette, là.
Mais Yann, tu sais, puis t'amènes un bon point. Imagine, là, puis je vais te mettre ça pire que pire. Le pont de Québec a eu, pas le pont de Québec, le pont La Porte a eu des réparations, c'est l'été dernier, où on devait changer de voie puis revenir. Avec un camion automatisé, là, pas de conducteur à l'intérieur. On jase. Une belle petite tempête de neige, on voit plus les lignes à terre, c'est blanc. Comment est-ce que le camion fait pour détecter qu'il y aura une zone de détour? Et de ramener ça dans la bonne voie sans crocher rien, m'a ajouté un complexe un peu plus sérieux, c'est que qui sera imputable si le camion accroche un auto, accroche les bandes de ciment de côté, crée un accident? Qui sera responsable? Parce que la compagnie qui crée ces camions-là crée ça avec un logiciel, et le logiciel lit dans des caméras, mais va probablement dire à tous les ministères de transport de ce monde de dire, bon, il faudrait bien dégager la surface, sans quoi, ben le camion ne pourra pas arriver à destination sans accrocher quelque chose. Puis en plus, ben est-ce qu'il y aura quelque chose dans le camion qui va dicter, bon, il vient de tomber 6 pouces de neige à Québec. Et là, il n'y a personne qui va déneiger le camion. Est-ce qu'on envoie une compagnie? Est-ce qu'un message qui est envoyé vient déglacer, vient déneiger le camion? Parce que quand tu vas embarquer sur l'autoroute, tu fais une tempête de neige incroyable. Toute la neige qui va circuler en arrière du véhicule. Fait que moi, je pense qu'on ne verra pas ça de notre vivant. On va peut-être voir des genres de situations où on va pouvoir avoir des zones où, bon, le volant va quasiment conduire tout seul. Mais après tant de temps que tu n'as pas mis la main sur le volant, ou qu'il y a un doute quelconque, qu'il y aura une alarme qui retentira et tu devras reprendre le volant parce que sinon le camion va arrêter. Là. Mais pourquoi qu'on s'en irait là quand notre métier, oui, je comprends qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, mais pourquoi qu'on s'en irait là quand le plaisir de faire ce métier-là, c'est de conduire un véhicule? Là, ça va être des gens que tu vas asseoir là qui vont pallier à un système qui est déficient, si jamais c'était le cas. Et quand tu vas arriver au truck stop, là, ça prend toujours bien quelqu'un qui va aller rouvrir les pompes à essence, puis mettre du diesel dans ce véhicule-là, puis de reculer. Si tu veux, le camion, vas-tu rouler 24 heures sur 24? Moi, ouais. Je pense pas. La seule façon que ça pourrait fonctionner, c'est un peu comme le même type de transport qu'on a sur les autoroutes américaines, notamment la 90, c'est qu'on peut faire un train routier là, mais on reste sur l'autoroute. Puis peut-être qu'éventuellement, si on met un capteur dans l'asphalte, que seuls ces camions-là sont capables de lire, bien tant mieux. Mais s'il y a un carambolage, est-ce que lui détecte ça longtemps d'avance? Est-ce qu'il est capable de freiner d'urgence? Ça, c'est toutes des questions. Puis est-ce qu'il y aura un bureau d'enquête éventuellement à chaque accident pour essayer d'améliorer la sécurité? Puis qui tu poursuis dans le cas où le camion a rentré dans un autobus, m'a touché du bois, je voudrais pas que ça arrive, et qu'il y a 2 décès, 3 décès, 4 décès. Est-ce qu'on poursuit la compagnie de transport? Est-ce qu'on poursuit le fabricant? Est-ce qu'on poursuit celui qui a mis une bande dans l'asphalte qui a pas... Il n'y a rien qui a été... Tu sais, il va falloir...
Mais on s'entend, Ben, tu sais, je comprends tout ça, puis tu sais, je respecte toutes tes connaissances dans le merveilleux monde du camionnage, mais tu sais, l'intelligence artificielle, la technologie où on est rendu aujourd'hui en 2024, la puissance des ordinateurs, le calcul est beaucoup plus rapide que les calculs qu'un être humain peut faire dans sa tête. Le réflexe va être instantané avec ces machines-là, puis la machine va faire ce qu'elle croit être le mieux pour réussir à sauver la marchandise puis essayer de ne pas faire d'accident. Tandis que l'homme, ben lui, ça se peut qu'il soit sur son cellulaire, ça se peut qu'il soit sur sa tablette, ça se peut qu'il soit distrait, ça se peut qu'il ne prenne pas nécessairement les bonnes décisions en raison de sa piètre... connaissance
sur les yeux.
Ben, c'est ça, on parle souvent de certaines communautés qui arrivent au Canada, qui obtiennent des permis très rapidement, puis qui conduisent alors qu'ils ne sont même pas capables de reculer le camion. Moi, je pense que l'intelligence artificielle puis les ordinateurs d'aujourd'hui sont capables de faire des calculs qui ont pas mal plus de bon sens que l'être humain qui est un peu dysfonctionnel parfois en raison de toute la technologie qui est autour. Moi, les grands tronçons, surtout aux États-Unis où la route est belle, il va pouvoir y avoir de ce type de camion-là, mais tu as raison sur plusieurs points. C'est qu'au Canada, exemple, surtout au nord, avec les intempéries qu'on a, ça va toujours prendre un être humain dans la place pour conduire ou pour assister du moins l'ordinateur.
Même Yann, là, fait une livraison à soir avec un camion autonome comme ça, là, dans la ville de Québec. Okay? Bon, aujourd'hui, ça a été une belle journée, tout ça, mais tu as ramassé un paquet de calcium. Les sensors sur le véhicule, là, les détecteurs, tout ça, là, remplis de calcium, tout crotté, ça ne détecte plus grand-chose. Là, tu arrives, mettons, dans une compagnie X à Québec, tu t'en viens livrer, je ne sais pas, au moins de la bière, tu sais. Et que, bon, comment est-ce que tu vas faire pour reculer ta remorque au dock? De toute évidence, là, ça prend un humain pour faire ça. Est-ce que le système puis l'intelligence artificielle sera capable de reculer? Mettons que je te... Puis, ça prend quelqu'un qui va dire porte 2, porte 8, porte 14, je ne sais pas, et que la remorque, ben, il faut qu'elle se recule en deux camions remorques et il ne faut pas t'accrocher à rien. Je ne sais pas, moi, tu sais, moi, je n'ai pas l'impression qu'ici, puis même à partir du milieu des États, je n'ai pas l'impression que ça va venir possiblement avant au moins une bonne dizaine d'années, même s'il y a beaucoup d'avancées technologiques là-dedans. Parce que c'est les intempéries. L'été, peut-être, mais quand il y a des intempéries, ben ça scrape un petit peu la technologie.
Fait que pour les jeunes, il va toujours y avoir de la job là-dedans.
Il va toujours en avoir. Puis est-ce qu'on pourrait avoir un camion autonome qui va aller livrer local dans Québec avec toutes les adresses qui va attendre devant un dépanneur? Tiens, je viens te livrer 3 caisses de chips, mais il n'y a personne qui débarque. Est-ce que le dépanneur va sortir dehors pour aller fouiller dans le truck, prendre ses 3 caisses? Non. Fait que ça va prendre des humains constamment. Le seul avantage que j'y vois, c'est qu'on a de plus en plus de misère à trouver des gens qui veulent partir 2 semaines sur la route, 2-3 semaines sur la route. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas le choix. Ben, on faut trouver quelqu'un qui voudrait le faire ou le camion autonome. Ben, le camion autonome peut aider. Puis j'ai l'impression un jour qu'on va voir des entreprises pousser en disant « Venez nous porter votre cargaison ». On va s'occuper, nous, de l'expédier en très peu de temps. Puis le camion peut... Il n'y a pas de contrainte d'heure de conduite. Il n'y a pas aucune contrainte. Lui, il peut rouler tant qu'il y a du diesel dedans.
On est avec Benoît Therrien de Truck Stop Québec. On fait une très courte pause et on vient tout de suite après. Restez là, merci.
Marceau, le soir.
Ce soir, on a le plaisir d'être avec Benoît Therrien de Truck Stop Québec. On parle du merveilleux monde du camionnage. Plein de choses à jaser avec vous autres. Comment ça que ça passionne tant de monde que ça, le camionnage, Ben?
Il y a comme un aura autour de l'industrie. Tout le monde connaît un ou une camionneur et camionneuse dans sa parenté. Un oncle, un père, un frère, whatever, qui raconte des histoires incroyables dans ce monde-là. Il y a tout le temps des péripéties qui arrivent. Il y a des anecdotes de descendre 2-3 chums ensemble dans un camion, de suivre à la file des autres, puis on descend, je ne sais pas, ne serait-ce qu'en Floride, puis là, on se raconte des histoires. C'est une forme de plaisir. C'est comme un travail qui a beaucoup de bonheur. OK, il y a du négatif, mais il y a énormément de bonheur autour de ce métier-là. Puis, quelqu'un qui n'est pas dans le camionnage aujourd'hui puis qui déciderait un jour de s'en aller camionneur, va y penser régulièrement, va voir un camion, va se sensibiliser à ce qu'il entend un peu partout. « Ah, il m'a coupé, il m'a fait ci, il m'a fait ça, un char. » Fait que, tu sais, il y a toujours quelque chose à raconter au niveau de l'industrie.
Ouais.
Puis, ce qui fait que s'il n'y a pas un camion au monde, on n'est rien au monde. Puis je dis pas ça là, pour être prétentieux, mais il n'existe absolument rien si un camionneur n'a pas touché à quelque chose que vous avez. Y compris le linge que vous avez sur le dos, y compris votre épicerie. Nécessairement, d'un point A à point B, c'est un camionneur qui vous a emmené ça. Puis ce que je trouve déplorable en 2024, c'est qu'il y a beaucoup de sous-estimés dans notre industrie. On passe vraiment des fois pour des moins que rien. On a souvent été jugé d'avoir des tatous, puis des gros bras, puis pas d'éducation, mais on chauffe un truck. C'est pas vrai, tu sais, dans la pandémie, j'avais interviewé des gens de chez Sunwing, de chez Air Transat, qui avaient plus d'ouvrage nécessairement, les avions ne levaient pas, qui étaient venus dans le monde du transport parce qu'il y avait déjà une classe 1 en main. Ils ont été travaillés dans la région de Québec, ils ont fait des sous jusqu'à temps que ça reprenne, puis quand ça a repris, tu sais, pourquoi qu'on choisit le métier? Peut-être parce qu'il y a une forme de facilité. Il y a une forme de défi autour de ça. Chaque journée n'est jamais la même.
Ouais, je serais curieux d'entendre toutes les générations de camionneurs qui nous écoutent une fois de temps en temps. T'sais, les gars qui ont 90 aujourd'hui, 80, 70, qui eux autres l'ont eu un peu plus dur à l'ancienne. Parler avec des jeunes qui arrivent à 21, 22, 23 ans dans l'industrie du camionnage, à quel point ça doit être tout drôle, ce type de discussion-là. T'sais, moi, j'ai des discussions avec des gens dans mon émission. T'sais, j'ai 20 ans de différence avec un de mes jeunes co-animateurs, Thomas. Et tu sais, des fois, juste de lui rappeler que quand j'étais jeune, là, quand j'étais dans l'autobus, pour savoir où j'allais, fallait que je regarde par les fenêtres plutôt que de regarder l'autobus, là, sur le schéma de l'autobus, où est-ce que j'étais rendu, à quel arrêt. T'sais. C'est la même affaire pour vous autres. T'sais, les jeunes, maintenant, ils ont le GPS directement dans le truck versus les anciens qui, eux autres, quand ils s'en allaient à Montréal... Ben, eux autres, ils savaient c'était où Montréal, ils suivaient. Après ça, ils s'en allaient à New York, ils savaient c'était où New York. Les jeunes, eux autres, ils regardent le GPS. Fait qu'ils peuvent se ramasser dans, je sais pas moi, dans une piste de ski, puis ils s'en rendront pas compte.
Mais tu sais, Yann, pas tellement longtemps, moi, j'ai commencé fin 2000, début 2001, dans l'industrie du camionnage. Et je te le dis, là, il y avait comme une espèce de rack qui était fait comme en jean sur le siège du passager. Je peux pas te dire combien j'avais de livres de maps, et c'était comme une passion pour nous autres d'arriver à ça. Ah, j'ai pas Détroit, ben je la jette, ça coûtait une couple de piastres. Mettais ça dans la liste de toutes les maps qu'on avait, puis on partait d'un point A à point B sur une map. J'avais pas de GPS à ce moment-là, et j'appelais le client. Bon, bonjour, je suis Benoît de Transport Couture à l'époque. Et je viens livrer à votre adresse. Pouvez-vous m'indiquer un peu à partir de l'autoroute quelle sortie prendre qui est la meilleure? Et on apprend avec le temps que de jamais demander à la réceptionniste. Puis je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas bonnes, c'est parce qu'elle, souvent, des fois, elle arrive en autobus, puis elle donne la ligne d'autobus. Là, t'sais. Fait qu'on passe tel boulevard, puis on tourne là, puis on vient. Là, un moment donné, tu t'aperçois, tu dis, comment ça se fait? Je reviens sur le même boulevard. Fait qu'elle, elle te donne ce qu'elle sait de comment se rendre. Passe-moi le shipping, puis au shipping. Dites-moi c'est comment me rendre chez vous. C'était comme ça. Le GPS est arrivé un an ou deux après.
Y en a-tu qui se ramassent avec le camion dans les pistes de ski? Tu sais, je gérais tantôt les sentiers de motoneige ou encore les sentiers de côte à côte. Ça arrive-tu avec les camions?
Ça arrive. On a parlé, c'est ensemble, je pense qu'on a parlé du gars qui veut piquer au travers parce que le GPS l'a fait piquer au travers. Il y a une cargaison de potes de marijuana et qui arrive aux douanes avec ça. C'est sûr qu'il se fait revirer de bord. Mais j'ai un nombre de vidéos incalculables, Yann, de camionneurs qui, pour des raisons X, ont choisi d'emprunter une trail de quatre roues. Une trail. Pourquoi? Parce que des fois, être identifié dans un GPS. Puis souvent, il y a des camionneurs qui, pour sauver quelques sous, vont prendre un GPS d'auto au lieu d'avoir un vrai GPS de camion et vont utiliser le GPS d'auto qui, lui, ben écoute, il pense que c'est un char, fait qu'il va t'emmener n'importe où. Le GPS de camion, il faut entrer dans le GPS notre hauteur, notre largeur, notre longueur. Puis lui, il va te dire, bon, ben on passe par telle route parce que là-bas, il y a un pont qui n'est pas assez élevé, tu vas accrocher. Fait que mais le GPS de camion doit coûter au bas mot plus de 400-450 $, même plus proche de 500-600 $. Mais au moins, tu vas éviter, c'est pas 100% adéquat, mais tu vas éviter de fesser quelque part à un moment donné. Puis tu vas au moins arriver à la bonne destination. Puis je me rappelle, tu sais, la technologie est au service aussi de notre industrie. Il y a quelques années, même début 2001, tu payais un forfait cellulaire, c'était 400-500 $ par mois, puis tu n'avais pas jasé grand-chose. Là. Aujourd'hui, ben, c'est démocratisé, on peut aller partout, on a tous des forfaits nord-américains avec des données incroyables, puis ça s'améliore tout le temps. Mais l'industrie du transport a testé beaucoup, beaucoup, beaucoup de technologies à des gros frais. Aujourd'hui, ben, ça peut peut-être permettre de faire bénéficier monsieur et madame tout le monde. Je suis pas certain qu'il y avait tant d'automobilistes que ça qui demandaient du 50 gigs ou du 100 gigs à leur compagnie de cellulaire pour être capable d'écouter des séries Netflix le soir dans le camion ou de voir même écouter, je sais pas, moi, peu importe, une couple de vidéos, là, tu sais. Mais on a fait les frais, puis aujourd'hui, ben tout le monde peut en bénéficier de ça. Là.
OK. Hey, en fin de semaine, c'est-tu en fin de semaine que vous avez une run de motoneige?
Oui, en fin de semaine, là, c'est au profit de Leucan. On appelle ça la randonnée des transporteurs. C'est organisé par nous autres, Truck Stop Québec, la gang de transport Bernière, Pierre Labrie qui est là-dedans, puis Distribution DB, Carl Beaulac.
Ouais.
On organise, en fait, on était supposé partir des ponts de Québec et s'en aller vers Rivière-du-Loup. Là, il y a comme un litige dans le secteur de Montmagny, là, dans ces secteurs-là, où... bon, c'est un organisme de coupe forestière qui est en litige, je ne sais pas avec qui, mais ça nous empêche de traverser quelques parcelles de terrain. Donc, on va partir de Rivière-du-Loup. On a changé parce que le but, c'est de ramasser des sous pour Enfants-Soleil. Fait que le but, c'est de faire une randonnée avec des transporteurs. Il y a plusieurs personnes. On devrait être une vingtaine de motoneigistes. Et... bien, pour la cause, c'est 1 000 par motoneige. Donc, les gens devaient payer 1 000 de frais à Opération Enfant-Soleil. C'est un don qu'ils font pour participer à cette belle journée-là. Puis là, bien, en fin de semaine, on va faire le secteur de Pouinigamouk. Puis, on va aller revirer samedi à Rimouski. Puis, ça va être une belle fin de semaine. Puis, des belles retrouvailles aussi. Puis, tu sais, c'est pas facile pour tous les gestionnaires d'entreprise là, de dire, bon, ben oui, on a de l'argent, puis on va sortir ça. Ben, en tout cas, je salue la générosité de tous les participants, fournisseurs et tout ça qui ont embarqué dans le projet. Puis c'est pas fini. Même aujourd'hui, j'en ai d'autres qui se sont rajoutés. Fait que s'il y en a qui veulent se rajouter, ben il y a une page Facebook qui s'appelle « Randonnée des transporteurs ». Puis même toi, Yannick, la prochaine fois, il faut que tu t'achètes un skidoo puis venez faire de la motoneige.
C'est ouvert à tout le monde. Monsieur, madame, les enfants, c'est pour la bonne cause. Plus de détails, truckstopquebec.com. Vous êtes rendu à combien de participants, tu m'as dit?
Une vingtaine à peu près, c'est parce qu'ils s'en rajoutent. Puis il y en a qui, bon, pour de changer de partir de Québec, s'en aller là-bas, bien là, il y en a qui n'ont pas de remorque. Fait qu'on essaie de trouver plan B, tout ça. Mais si jamais vous désirez venir, vous voulez participer, on va vous trouver le moyen de vous monter là-bas. Là. C'est pas un problème. Les transporteurs vont sortir des vannes à rideaux, mettre des skidous là-dessus, puis monter ça direct. On va trouver un moyen.
Mais c'est bien parce que c'est déjà 20 000 piastres que vous allez donner à Leucan. Puis je trouve ça le fun de la part de votre gang de vous investir de cette façon-là. Fait que je vous souhaite à tous une bonne randonnée de motoneige. Puis oui, à un moment donné, je devrais me joindre à vous si le temps me le permet. Mais avec de jeunes garçons qui jouent au hockey, je peux te dire que là, en fin de semaine, j'ai deux games en Beauce. Puis j'ai un tournoi de hockey à Drummondville. Fait que si tu veux m'aider, Ben, tu peux venir aussi.
Ouais, je vais être en motoneige, mais. Ah, okay. Je suis booké pour les 158 000 prochaines années.
OK. Ouais,
c'est... Bien, ça t'a aidé, mais tu sais.
C'est toujours un plaisir de te jaser, Benoît Thérien.
Merci, Yann Marceau.
Salut, nous autres, on se laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes de Boulevard 102.1. Puis on se rejase demain, 11 h, pour ce qui est de Marceau le midi. Merci beaucoup. Bye-bye.
Marceau le soir.